Merci. Voilà, donc on reprend Dafaïn Gimel. On est au milieu d'un cheminement. On avait vu la Shéla de Rami Bar Chama. Est-ce que Veshama Isha? Ou bien les Rishonim disent la même chose pour Veshama Aviha. Est-ce que c'est une condition indispensable pour en venir à la Hafara? Ou bien non? Lav Dafka. La Torah le mentionne peut-être comme une... comme un élément naturel. Forcément, il a eu à entendre le vœu pour en faire une afara. Mais pas que c'est indispensable. Si vous voulez faire une afara, misafek, si éventuellement elle avait des vœux, je lui efface d'avance. Enfin, d'avance, je lui efface. Et est-ce que, peut-être, peut-être, c'est la shéla de Rami Bar Chama, sur laquelle on a eu plusieurs tachma, mais ça n'a pas abouti jusque-là. On est resté avec une ibaria d'Eloïfshita. Maintenant, il y a encore une subtilité qui vient se rajouter. Bahé Rami Bar Chama. Rami Bar Chama le même soulève une autre shéla. Maouchi a fait les ch'tos. Pardon, Kheresh Maouchi a fait les ch'tos. Un sourd. Il n'entend pas. Donc, alors, bien sûr, ce n'est pas un sourd muet comme souvent. Kheresh veut dire sourd muet. Ici, il parle. Il pourrait émettre une afara de dire à sa femme Moufarlar. Mais il n'entend pas. Donc, ce n'est pas seulement il n'a pas entendu le vœu. C'est qu'il ne peut pas entendre. Et alors, on a déjà vu une shéla, est-ce que c'est un défaut le fait qu'il n'a pas entendu? Alors je précise la shéla. Im tim tselomar, bal mifer beloshmia. Si on va établir, concernant la shéla première, que oui, le mari peut faire la fara sans qu'il y ait une condition de shmia, mishum debar shmia ou? C'est peut-être parce qu'il est apte à entendre. Alors la shmia effective ne fait pas défaut. Aval cheresh de la bar shmia ou, mais le cheresh qui n'est même pas en mesure d'entendre, alors il y aurait un problème, peut-être ce serait compromettant, la non shmia. Parce que Aïno de Rabbi Zera, c'est exactement le principe de Rabbi Zera, d'Amar Rabbi Zera, qui avait dit Kol araoui le bila in bila ma kevet bo. Une mincha avec laquelle on pourrait réaliser la mitzvah de Bila, même si ça n'a pas été fait, c'est bon, elle est kshera. Mais chol shen raoui de Bila, et si la Bila n'est pas réalisable, alors le défaut de Bila, c'est me'akev, Bila me'akev et bo. Quel est le sujet? On a fait un éder, on veut offrir une mincha au Beit HaMikdash. Maintenant, la Torah nous parle d'une mincha, c'est comment? C'est de la solette. Beloula bashemen. Donc il y a une dose d'huile qu'il faut associer à la semoule et il faut mélanger, c'est ça? Mincha belula bashemen. Mais la Torah n'ayant pas dit ou balalta, tu mélangeras avec l'huile. C'est écrit belula, elle est belula. Ça s'entend pas comme si c'est un tzivouï au premier degré. C'est pourquoi Chachamim ont compris qu'il y a un compromis. Il faut belila en potentiel et c'est bon. Maintenant, si tu peux pas parce que tu supposes le keli est pas assez grand. Ta mincha est trop importante pour que dans ce keli tu puisses mélanger. Tu mélanges, ça déborde. Donc c'est-à-dire que techniquement, la belila ne peut pas se faire. C'est pas bon. Une mincha dans laquelle on ne peut pas concrètement réaliser la belila, bila veut dire belila, baloul, mélanger. On ne peut pas faire la mitzvah de belila, c'est me'akev. Mais si on pourrait, même qu'on ne l'a pas fait, ça passe. C'est le fameux principe de Rabbi Zera. Eh bien, ici aussi, ce principe peut intervenir. Un mari qui n'a pas entendu, c'est une chose. Un mari qui ne peut pas entendre, c'est une autre. Là, il est paraoui, il est shmia. La Torah a parlé de shmia. On pourrait comprendre que là aussi, ça relève du principe de Rabbi Zera, parce que comme pour Blila, c'est pas écrit Bélachon Tzivoui. Ça, c'est Tosfot ailleurs qui précise que pourquoi ici on ferait un compromis dans Blila. Parce que la Torah ne l'a pas dit Bélachon Tzivoui. Alors tu dis, ça fait partie de la mitzvah pour qu'on fasse la mitzvah Bishlemot. Il faut mincha belula bashemen. Mais sans belula, ça passe quand même. Peut-être on pourrait dire la même chose ici. Veshama, c'est pas melachon tzivui, ça veut dire c'est le récit. L'homme aura pris le vœu de sa femme. Si c'est tu, alors ça fait akama. Et s'il a fait afara, peut-être que c'est dans ce sens. Et du coup, ça donne que même s'il y a une condition de shmia, mais c'est pas une condition indispensable, c'est une condition de shmia qu'au moins shmia degré moyen. C'est quoi degré moyen? Que si la shmia est possible en potentiel, c'est bon, c'est comme si. Et si elle n'est pas possible, alors c'est un problème. Alors du coup, le nouveau sujet de Rami Bar Chama, c'est un deuxième niveau dans la Shéla première. On a compris que c'est encore aller plus loin dans la Shéla. Le défaut de shmia est-il problématique ou non? Dans un premier temps, la Shéla, c'est est-ce que, même si je peux entendre, mais je n'ai pas entendu, est-ce que c'est déjà un problème? Après, on ne sait pas. Et on dit, mais si on tranchait que ce n'est pas un problème, est-ce que quand le mari n'est pas à même d'entendre parce qu'il est sourd, est-ce que là, c'est lui un problème? Ou même ça, ce n'est pas grave. C'est la nouvelle Shéla qui est soulevée. Amar Avar Avay dit, Tashma, viens, écoute, j'ai une référence. La Braïta nous dit, Veshama Isha, son mari aura appris le vœu. Ça exclut la femme d'un sourd. Qu'un sourd ne peut pas faire de hafara puisqu'il ne peut pas entendre. Shma mina, clair, c'est adjugé. Là, tu as une braïta directe. On a la réponse toute faite dans cette braïta. Sauf qu'après, la shéla numéro 1, hein, ça reste une shéla. C'est ni baya de loifshita. Est-ce que je dois dire que si dans la Braïta, on a statué que c'est pas bon pour un mari Kheresh, alors j'entends qu'un mari qui n'est pas Kheresh, ça marche, même s'il n'a pas entendu? Selon le compromis de Kolaro et Bila, oui? Ou bien je dirais non? La Braïta, elle a parlé du Kheresh en tant que Urcha de Milta. L'habitude, c'est quoi un mari qui n'a pas entendu le vœu? C'est un mari qui était sourd. Mais où a dit un mari qui n'est pas sourd, s'il n'a pas entendu, ça, ce serait problématique. On ne sait pas comment. Est-ce qu'il y a un diouk à faire de cette braïta ou non? Certains pensent que oui, certains pensent que non. C'est Machloket Rishonim. Et le Ramban dit non, pas du tout. Parce que si c'était un diouk à faire, eh ben dans la Sugya précédente, la Gemara l'aurait fait ce diouk. Elle n'a même pas ramené cette braïta dans le développement précédent. Pourquoi? Certainement parce que ce n'est pas une preuve. On parle du Kheresh en tant que Urcha de Milta, le cas habituel. Pourquoi le mari n'a pas entendu? Parce que sourd. Mais l'Avdavka, un sourd. Ou Adin, un mari qui n'aurait pas entendu, ne pourrait pas faire la hafara. Et maintenant, donc de cette braïta, il n'y a aucune preuve. Maintenant, néanmoins, certains richolim vont nous dire qu'il y a un sous-entendu dans la sugya, qu'on a un avis sur la première question. Puisqu'on a dit « Imtim tzelomar baal mefer beloshmiya » Ça veut dire que c'est ça la tendance. Comme ça, souvent les Rishonim travaillent avec ce principe que quand des Shélot se succèdent dans la Gemara et qu'elles sont reliées par un Imtim Tselomar, si tu penches dans ce premier débat comme ce Tzad, alors j'enclenche tel autre Shéla, c'est que c'est ce Tzad qu'il faudra retenir en définitive, même si on n'avait pas de preuves. Tous les Tachmas n'ont pas abouti, quand même c'est ça la tendance et c'est ça qu'il faudra retenir en Halakha. Souvent le Rambam travaille avec ce principe, et là aussi le Ramban s'est rapporté dans le Ran. Donc eux deux, ils pensent que c'est la conclusion concernant le premier sujet, le mari peut, même s'il n'a pas entendu. S'il ne peut pas entendre, ben c'est ce que la Braïta a dit, que ben c'est différent. Prat l'Eshet Kheresh, Shamaïcha, ça exclut le Eshet Kheresh. Un autre argument, c'est que toutes ces références, ce sont 3-4 Tashma. On avait 4 Tashma. À chaque fois, si je pars d'une idée que sans shmia on peut faire la fara, ça coule de source. Et si je dis qu'il faut, faut qu'il y ait shmia, il fallait faire peut-être pas du forcing, mais interpréter à chaque fois dans des cas spécifiques, etc. Comme on a dit à chaque fois la réponse, mais c'est pas la page toute, disent les Rishonim. Alors la page toute, c'est plutôt que ces références parlent sans se okimtot. Et ça donne un avantage pour le Tzad que même sans shmia, on peut faire hafara. En tout cas, c'est comme ça que certains Rishonim veulent trancher. Il faut voir la lacha dans Shulchan Aruch. Nouvelle étape. Ibayaleu. Au Bet HaMidrash, l'amorim ont eu la shéla, Baal, Maouchi, Afer, Lishtei, Nashav. Est-ce qu'un mari peut faire l'hafara à deux femmes? Bevat Achat. Toutes les deux ont fait un vœu qu'il a entendu. Et d'une pierre de coup, dit Moufar Lachem. Ota davka, olav davka. Quand dans la Torah c'est écrit Ota, le pasuk veim beyom shemo aisha yani Ota veferet nidra. Et si le jour où il aura entendu sa femme, non, pardon, si le jour où le mari aura entendu, Yani Ota, il refuse, il récuse le vœu de sa femme, Veferet Nidra. Est-ce que Ota, c'est singulier, ça veut dire elle, une et pas deux? Ou bien non, Lav Davka. Ota, Davka, Olav Davka. C'est sûr que le sens du pasouk, ça parlait qu'il avait qu'une femme, et donc c'est, en tout cas, il y avait un éder d'une femme, et c'est de ça qu'on parle. Mais est-ce que la Torah l'a dit parce que bon, c'est le din dans ce cas précis qu'on a présenté? Mais ça pourrait être autant s'il y avait deux femmes, et il fera le même, la même affara pour les deux, ou bien non, c'est Davka Ota, faut le prendre à la lettre. Amar Ravina, Ravina, il répond, Tashma, viens, écoute. Une braïta nous dit, en mashkin shtei sotot ki achat. Nipne shelibo sheliba gas bechaverta. Ashkat sota o bet amigdash. On le fait pas par groupage deux. Par exemple, un mari, il a deux femmes. Toutes les deux, elles étaient dans la même situation. Il y avait kinoy estira, c'est-à-dire, il a mis en garde, t'approche pas d'un tel. Et après, estira, elle s'est isolée avec un tel. On ne sait pas ce qu'il y a eu. Le mari doit amener sa femme au bet amigdash. Toute la procédure qu'on enclenche. On est mâché la sota, l'eau, avec les cendres du parchemin sur lequel on avait écrit le nom d'Hachem, etc. On lui fait boire. Tout ça, c'est la procédure pour la procédure test. Maintenant, on n'aime pas effacer le nom d'Hachem. On préfère éviter. Si la sota, elle avoue qu'elle a commis un adultère, c'est réglé. Elle est assoura les bala, bien sûr, et c'est réglé. On n'a plus besoin d'effacer le nom d'Hachem. Et sinon, ben, il faut faire le test. Alors maintenant, on incitait la sota à avouer. Et donc, si une, elle voit que l'autre, elle nie, peut-être à juste titre, l'autre, elle est innocente, elle n'a rien commis, aucun adultère, elle a raison de nier. Et comme l'autre, elle nie, elle aussi, elle voudra se permettre de nier. C'est ça être liba gasba. Ça veut dire, elle se sent familière avec l'autre et... Et il y a une influence, il y a un jeu d'influence, et ce qui fera qu'elle non plus voudra pas avouer, alors qu'elle aurait peut-être avoué si elle était seule. C'est pourquoi on ne les traite pas simultanément, Bet Amigdash. Chacune, c'est une autre procédure, séparément. Donc ça, c'est ce que Tana Kama nous dit. Mais Rabbi Yehuda Omer, l'homme inachemouzé, ce n'est pas à ce titre qu'on doit les traiter séparément. Et là, Mishum Shelemar Veishka, Ota Levada. C'est parce que c'est écrit Veishka, ou peut-être Veishka Ota Levada. En réalité, il n'y a pas un pasouk de Veishka Ota. C'est écrit Veishka avec un mapik He. Mais ça résonne Veishka Ota. Comme ça, ils disent les Rishonim ici. Ce qui fait que nous, on entend de ça Levada, elle seule, spécifiquement. On lui fera boire les Maïm Amererim à elle. À elle spécifiquement. Donc le mot Ota, qui est comme mentionné, puisque Veishka, c'est la contraction de Veishka Ota, alors ça induit, selon la Braïta, elle n'est pas deux, une seule. Et donc, on a justement une référence intéressante, puisque nous aussi, c'est ce mot Ota qu'on veut savoir traduire. Alors, si tu sais le traduire dans une référence de la Torah, tu sais le traduire de la même manière dans d'autres références. Nous, dans la référence de Hafarat Nedarim, Ota, ça se traduira de la même manière que dans Sota. Maintenant, il y en a qui disent que le mot Ota, concernant la Sota, ce n'est pas le pasouk de Veishka. Veishka et Amaim. C'est un autre pasouk. Ce serait le pasouk Veikrivota HaKohen. Le Kohen est Makrivota. Donc, c'est dans le cadre de la procédure au Bet HaMikdash, il y a ce terme Ota. Comme si c'est un traitement individuel, elle, une et pas deux. Donc, que ce soit ça ou ça, en tout cas, il y a le mot Ota, ou comme le mot Ota, que Chazal ont traduit d'une manière spécifique, ce qu'on aura retenu là-bas, on l'importera ici. Maintenant, il nous faut comprendre, est-ce que l'intention de la Gemara, c'est de se référer à Rabbi Yehuda ou à Chachamim? Qu'est-ce qu'il faudra retenir? Quand Ravina dit « j'ai une preuve, Tashma », regardons la référence là-bas, c'est pour retenir quoi de là-bas. Alors il y a Machloket Rishonim ici. Laura nous dit qu'il y en a qui disent que l'intention c'est de prouver, bien sûr, de Rabbanan. Rabbanan face à Rabbi Yehuda, c'est eux la halakha. Or, Rabbanan, il pense que Ota, c'est exclusif, c'est une et pas deux. Donc, dans Nedarim aussi, c'est ce qu'il faudra entendre. Une et pas deux. Ça, pardon, ça c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbanan, ils ont pensé que... Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dans la référence là-bas? Il y a Rabbi Yehuda qui dit, pour des raisons de Mipnesh et Libo Gasba. Et Rabbanan, ils disent... Non, je me suis embrouillé, excusez-moi. Ça, c'était Rabbanan, très bien. Et Rabbi Yehuda, il dit, parce que... Zeratakatou. Alors, quelle est l'intention de Ravina? Je me reprends. Est-ce que c'est de celui qui a parlé explicitement du sujet, à savoir Rabbi Yehuda? Lui, il a dit, voilà, Ota, ça se traduit comme ça, spécifique, et donc ça ne se fait pas en groupage, en global, chacune à part. Alors, c'est notre référence pour notre sujet de Nedarim. Ou bien tu dis, mais non, depuis quand tu te réfères à Rabbi Yehuda? Réfère-toi à Rabbanan, c'est Marloket Rabbi Yehuda Chachamim. Or, le Tanakama Chachamim, eux, ils pensent que quoi? Ils tiennent pas de cette Xerata Katou. Pour eux, Ishka Ota, c'est l'Avdavka spécifiquement une. Si on refuse de traiter deux Sotot à la fois, c'est pour des raisons... accessoire, comme on est en train de dire, parce qu'on en craint que l'une influence l'autre, elle nie, et l'autre aussi va nier, alors qu'elle aurait peut-être avoué. Alors c'est ça, uniquement ça. Donc d'après ça, la conclusion serait que Ravina a voulu trancher, que Ota, c'est pas exclusif, ça peut être deux. Mais le Ramban, il pense pas comme ça, nous dit le Ram. Au contraire, il nous dit que même Tanakama est d'accord sur le fond avec Rabbi Yehuda. Qui est Tanakama? On l'a identifié dans une Gemara ailleurs, dans Maseret Sota, on nomme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est celui qui dit d'habitude Darshinan Ta'ama Dikra. On interprète les raisons d'un principe ou d'une Gzera Takatou. On ne prend pas crûment les choses. Or ici, c'est vrai que c'est écrit Ota, et Ota, ça veut dire Levada. Mais moi, j'interprète quelle est la raison pourquoi Levada, que la Torah exigeait que ce soit seul. Parce que, il y a un fond dans ça, c'est qu'une va influencer l'autre. Au lieu qu'elle avoue, ben elle n'avouera pas parce que l'autre n'a pas avoué. Mais au final, ça veut dire que les deux se réfèrent au pasuk de Vishkaota. Une et pas deux. Et donc, si c'est admis, tout le monde pense ça dans la Braïta, forcément, c'est ça notre conclusion. Donc, Ravina, il avait quelle intention? De ramener une Braïta où tout le monde est d'accord finalement que Ota, ça s'entend elle et pas deux. Alors c'est ça qu'il faudra retenir pour Afarat Nedarim. C'est une à la fois et pas par deux. Mishnah, nouveau sujet. Bogeret Sheshata Yudbet Chodesh Valmana Shloshim Yom. Rabbi Lezer Omer Oil ou Baal Achaya Vimzonotea Yafer Vachachamim Omri Menabal Meferat Shetikanes Lirshuto. Ce sujet, on l'a déjà un petit peu effleuré dans Dafayin Amudbet. La Bogeret... 12 ans et demi. Elle sort du Reshout Ahav, ça c'est... Il n'y a plus rien, le père n'a aucun droit sur elle. Shahata Yudbet Chodesh, ça veut dire qu'après fiançailles, il y a eu 12 mois qui se sont écoulés, ou une veuve, 30 jours qui se sont écoulés après ses fiançailles, alors le din c'est que le mari doit lui donner les maisonnottes. Et à ce titre, dit Rabbi Eliezer, il peut aussi effacer les vœux. Alors le Ran nous rappelle une mise au point que la Gemara avait fait dans Dafayin Amud Bet, c'est qu'il faut couper le sujet en deux. Bogeret virgule, Veshechaata Yudbet Chodesh, celle qui a patienté 12 mois. En fait, c'est un sujet dans Maseret Ktuvot, dans une Mishnah là-bas. Il est établi le din des maisonnottes, ça c'est du Ktuvot pur et dur. Le din des maisonnottes qui est le devoir d'un mari de subvenir à tous les besoins matériels de sa femme. Quand est-ce que ça commence? Normalement, c'est le jour du mariage. Mais maintenant, si on a donné le délai pour se préparer, il y a la demande, on a donné les kiddushin. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout de suite on pense concrètement au mariage. À l'époque, on donnait des kiddushin très jeunes. Elle pouvait avoir 8 ans dans les kiddushin au père. Ça ne veut pas dire qu'on se marie avec elle tout de suite, par exemple. Mais dès l'instant où le Khatan dit, maintenant, c'est sérieux. Je réclame qu'on se prépare au mariage. On lui donnera, elle, un délai de 12 mois pour préparer son trousseau. Ce même délai sera accordé à lui pour faire ses économies et financer le mariage. Bien. S'il n'a pas honoré l'engagement, au terme des 12 mois, il tarde à se marier. C'est lui qui retarde? Ah, on le pénalise. Il doit payer les maisonnotes. Parce qu'à ce jour, elle était sous son toit normalement. Elle était mariée. Elle était à sa charge normalement. Alors le mari doit l'assumer et lui paye les maisonnotes. C'est comme ça le dîne. La même chose pour une boguerette. Sauf que. Pardon, l'almana, c'est 30 jours. Pourquoi? Elle n'a pas besoin d'un délai de plus que 30 jours. Elle a déjà un trousseau. C'est bon, elle est veuve. Elle était déjà mariée. C'est plus facile pour elle. En 30 jours, ce sera réglé. Il n'y a que 30 jours de délai. Le mari réclame, je veux qu'on pense sérieux maintenant, tu te prépares au mariage. Dans 30 jours, elle doit pouvoir répondre présent. Et lui, on lui donne le même délai, 30 jours. Et si au 30e jour, il n'a pas honoré l'engagement, il n'est pas présent, lui, au mariage, eh bien, il paye les maisonnottes à sa fiancée. Donc voilà qu'une fiancée, des fois, elle a droit aux maisonnottes de la part du mari. La Mishnah mentionnait Bogueret. Pour l'instant, on croit que c'est la Boguerette qui a attendu 12 mois. C'est un seul et même sujet. Ça veut dire qu'elle s'est fiancée en tant que Boguerette. Et là aussi, il y a un dîne de Tvia. Tvia, ça veut dire qu'il faut que le mari prévienne. Attention, c'est sérieux, prépare-toi. Et on lui donne un délai de 12 mois. Bien, Ravuna. Dans Maseret Ktuvot, il dit non. La Boguerette, c'est que 30 jours. C'est comme une veuve, c'est que 30 jours. Pourquoi? Parce qu'une fille qui a 12 ans et demi, elle pense mariage. Et elle prépare son trousseau même si elle n'est pas fiancée. C'était comme ça à l'époque. Donc on n'a pas besoin de lui donner un délai de 12 mois d'emblée. La Nahara, oui, parce qu'elle n'a pas pensé mariage jusque-là. C'est quand elle est mekoudechet et que le Khatan dit, bon, écoute, c'est sérieux maintenant, on se prépare, on lui enclenche les 12 mois. Mais la Bogaret n'a pas besoin de 12 mois, c'est une affirmation de Ravuna, à laquelle on oppose la Mishnah ici. Et tu vois pas que ici. La Boguerette, elle a besoin de 12 mois. C'est marqué Boguerette et Chataï Bet Rodesh. Alors la Gemara, elle, d'un côté, elle dit qu'il y a une Tiyuvta des Ravuna, faut voir là-bas le développement. Mais d'un autre côté, il y a un peu de vrai dans ce que dit Ravuna. C'est-à-dire, Ravuna, il pense que la Boguerette, c'est systématiquement 30 jours. Elle n'a pas besoin de plus. Eh bien non. Ça dépendra. À quel moment elle a eu ses Kiddushin? Si elle venait de devenir Boguerette. Et aujourd'hui, elle reçoit des kiddushin. On n'a pas besoin de tvia, c'est la Mishnah qui le dit, parce que Bogueret, tu te fiances en tant que Bogueret, c'est qu'on pense mariage, c'est concret. Tu dois te préparer, le délai s'enclenche tout de suite. Mais quel est ce délai? Bah 12 mois, puisque elle est Bogueret d'un jour. Elle a droit à 12 mois. Mais si, ça fait un an qu'elle est Bogueret, ça fait déjà 12 mois qu'elle est Bogueret, et lui donne les kiddushin, là, il n'y a pas besoin de plus que 30 jours. Donc il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit Ravuna, c'est-à-dire que, bon, lui il n'a pas dit ça, lui il a dit que c'est systématiquement 30 jours. Mais nous on retient pas ça sur Ravuna, on a une tiyuvta, mais on retient un peu que des fois 30 jours peuvent suffire. C'est-à-dire que le délai minimal qu'on accorde à une boguerette, ce sera toujours au moins 30 jours, voire plus. 30 jours, si ça fait 12 mois qu'elle est boguerette, 12 mois en tant que boguerette, elle a eu le temps de faire son trousseau. Une fille boguerette, pensez à ça. Donc, c'est comme Almana. Elle a déjà un trousseau. Le mari dit, écoute, c'est sérieux maintenant, tu te prépares au mariage. Elle n'a que 30 jours. Mais la Boguerette, ça dépend à quel moment il y a eu les Kiddushin par rapport à l'âge de Bagrout, quand elle a atteint l'âge de Bagrout. Si, et imaginons que c'est 6 mois après la Bagrout, donc elle a 13 ans, 12 ans et demi c'est Bagrout, à 13 ans, 6 mois après, elle reçoit Kiddushin. Combien de temps on va lui accorder? Pas 30 jours, on lui accordera encore 6 mois. Pour que total, entre les 6 mois de Bagrout qui comptent, plus les 6 mois de délai qu'on lui a donné, il y a les 12 mois. Donc ça, c'est le dîne de Bogueret. Donc c'est pas vrai de dire ici, dans la Mishnah, Bogueret Shatayit Bet Chodesh. C'est que dans un cas rarissime que la Bogueret, on doit lui accorder 12 mois. Ce serait dans le cas où les fiançailles étaient le jour de sa Bagrout, à 12 ans et demi. Et donc, on peut pas le présenter de manière tranchée. La Bogueret qui a attendu 12 mois. Non, en général, c'est pas 12 mois. Rarement. Possiblement, mais en général, non. Donc, comment tu présentes un sujet comme ça? Et donc, faut couper en deux et dire, la boguerette, selon le délai qu'elle aura à attendre, qu'on lui accordera, selon les cas, c'est variable. Et la nara, fiancée, qui a attendu les 12 mois. On lui a dit, la tvia, attention, maintenant c'est sérieux, on a enclenché le délai, et le délai des 12 mois est révolu, alors voilà, maintenant le din. Ou bien une almana au bout de 30 jours. En bref, toutes celles qui ont atteint l'échéance du délai imparti, que ce soit la boguerette, le délai variable selon ces différentes situations, que ce soit la Nahora qui est après la Tvia, 12 mois de délai, que ce soit une almana, 30 jours de délai. En règle, toutes celles qui ont atteint l'échéance de ce délai, si le mari traîne les pieds pour concrétiser le mariage, alors que ce jour, normalement, elle est sous son toit, c'est réglé. Elle est à sa table, comme toute épouse. Eh bien, il doit quand même la nourrir, même qu'ils n'ont pas concrétisé le mariage. Ça, c'est le premier point de la Mishnah là-bas. Et la Mishnah rajoute qu'elle mangera aussi la terouma, même si elle est Bat Israël, fiancée à un Kohen. Or, d'habitude, la Bat Israël, fiancée au Kohen, ne mange pas la terouma. Je précise, Minatora, Arusa Bat Israël, Ochelet Bitrouma. Oui, Minatora, puisqu'on apprend des psukim, que la femme du Kohen, même non mariée, juste fiancée Kiddushin, elle mange la terouma, mais Rabbanan l'ont interdit. Pour différentes raisons, alors ça peut être la raison de Simpon. Simpon, c'est si jamais il s'avère qu'il y a un défaut qui va révéler après mariage, mais maintenant il ne la connaît pas, il ne sait pas si elle a des défauts ou pas. Il ne vit pas avec elle, elle n'est que Mekoudeshet. Donc il n'en sait rien, mais si après il y a une surprise qui a un défaut qui invalide les Kiddushin, rétroactivement, il s'avère qu'elle a mangé la terouma injustement. Donc, on ne se risque pas, Rami me dit non, on ne laisse pas manger la terouma jusqu'au jour du mariage. Ou pour une autre raison, Shema yashkena kos bevet avia vetashkenu leachia veleachioteia. Le Khatan, il est sympa, il amène du vin de terouma puisqu'il est Kohen. Et elle a le droit. Il lui sert. Mais elle est chez elle, en famille. Elle n'est pas chez lui, elle est en famille. Bet avia. Et la femme, la Kala, elle va donner à ses frères et sœurs. C'est sympa. Et le Khatan, il m'a offert du vin goûter, c'est très bon. Mais ça va pas, tes frères et sœurs, ils sont Israël, toi t'es femme de Cohen, au moins fiancée, t'as un droit, mais eux n'ont aucun droit. C'est dangereux. Situation à risque, on interdit. La fiancée ne consomme pas de terouma jusqu'au mariage. Maintenant, la Mishnah là-bas nous dit que si on arrivait au stade où normalement fallait qu'il y ait le mariage, le mari retarde deux choses. Il doit donner les maisonnotes et de plus elle a droit à manger la terouma. T'as plus peur? Alors là, elle explique qu'on n'a plus peur de ses craintes. Si c'était la crainte, pourquoi on a interdit à la roussa de manger la terouma de peur qu'il y ait un défaut? À ce stade, il n'y a plus à craindre. Parce que si ça lui coûte cher tous les jours, il doit donner les maisonnotes, il s'assure qu'il n'y ait pas de défaut, il demande à ses sœurs, regarde, fais attention qu'elle n'ait pas dit, donne-moi des infos qu'elle est bien, il n'y a pas de défaut. Parce qu'il ne casse pas de l'argent sans être sûr. Il a peur que si après il y a une surprise, il a casqué tout ça inutilement. Donc il n'y a pas vraiment à craindre Simpon au-delà de cette date où il doit payer maisonnotes. Si c'était le risque de « elle va partager du vin de terouma avec ses frères et sœurs », il n'y a plus à craindre. Pourquoi? Même si elle vit chez ses parents, mais pour les maisonnotes qu'il lui doit, il est meyached la makom. Il l'invite à manger et non pas chez papa, maman, avec tous les frères et sœurs autour. Ce qui fait que et il n'y a pas le risque tellement qu'elle partage aux autres. Voilà. C'est pourquoi la Mishnah dit qu'à partir de là, elle peut manger. Je redis parce que Minatora avant tout, une Arusa Bat Israël, elle mange la terouma. C'est que Rabbanan qui ont interdit pour telle ou telle raison. Mais à partir du stade où ils donnent les maisonnotes, il n'y a plus de raison ni l'une ni l'autre. C'est pourquoi elle peut manger la terouma. Ça, c'est ce qui est dit dans la Mishnah là-bas. Notre Mishnah, elle réfléchit à un sujet de Nedarim. Et elle nous dit qu'à partir de cette échéance que le mari doit donner les maisonnotes, il y a faire. Il peut faire la farat nedarim lui seul maintenant. On est d'accord que la boguerette, le père, ne peut plus rien pour elle. Elle est sortie du rshutav. Et le harous, il est seul. Normalement, le harous ne peut pas faire une farat nedarim tout seul. Une fois qu'il sera marié, oui, mais pas harous. Et là, il est harous et quand même, Rabbi Eliezer nous dit qu'il pourra faire la farat tout seul. Dès lors qu'il doit payer maisonnotes. Chachamim omrim en abal mefer achetikanes lirshuto. Chachamim ne disent pas question. La fara, c'est qu'une fois qu'il y a eu Nisouin. Mais avant Nisouin, il ne pourra pas faire une fara lui seul. Amar Abba. Rabbi Eliezer au Mishnah, Rishona Amrou Davar Echad. Rabbi Eliezer de notre Mishnah et un passage d'une Mishnah Ktuvot qui s'appelle Mishnah Rishona. Alors c'est une Mishnah à deux niveaux. Là-bas dans Maseret Ktuvot, il y a une Mishnah où il y a deux parties. Une qui s'appelle Mishnah Rishona et une qui s'appelle Mishnah Charona. C'est comme si on va dire version 1, version 2 sur un même din. On va voir ce sujet tout de suite. Itnan, là-bas la Mishnah enseigne. Notnin la betula yud bet chodesh de farnes atzma. On accorde à une betula un délai de 12 mois pour se pourvoir en tout trousseau et compagnie et pour pouvoir être prête au mariage. Bien sûr, ça parle des 12 mois après que le mari fait la tvia, je sais pas comment on peut appeler ça, demande en mariage, je ne sais pas, ils sont déjà fiancés, mais que ça devient concret. Il lui dit voilà, maintenant réfléchis sérieux, prépare-toi. Alors on enclenche ce délai, 12 mois. Elle mange de lui. C'est lui qui assume Maisonot. Également, elle peut manger la terouma. Aval ayavam elomachil bateruma. Le yavam ne fait pas manger la yevama terouma. Ça veut dire, il est question qu'une arusa bat Israël mange la terouma. C'est ce qu'on vient de voir dans le titre. Si seulement le délai imparti est passé, eh ben, elle mange sur la table du Arous et en plus elle peut manger terouma parce que le Khatan il est Kohen. Maintenant, s'il est mort le Khatan et qu'il y a un Yavam, le Yavam ne peut pas lui donner droit à manger la terouma. A Yavam et Nomaril Bateruma, la Gemara dans Ktuvot, elle est d'Oreshé du Pasuk, que c'est que le mari et pas le Yavam. Kinyan Kaspo, Kohen qui yiknen. Kinyan Nefesh Kinyan Kaspo, Huyochal Belachmo, le Kohen qui a pris possession par acquisition d'argent, c'est le cas des Kiddushim, eh bien sa femme qui est sa possession peut manger Terouma. Mais celui qui a donné l'argent des Kiddushim, le Yavam, c'est pas lui qui a fait l'acquisition avec Kiddushim. Lui, c'est Zika automatique parce que son frère était le mari, alors elle est Zekuka au Yavam. Là, même que le Yavam est Kohen, elle ne mange pas Terouma. De ces 12 mois de délai, c'est-à-dire le mari l'avait prévenu, attention maintenant c'est sérieux, tu te prépares. Et les mois commencent à défiler, aux 6 mois il meurt. Et il y a encore 6 mois qui passent. Donc elle était fiancée 6 mois au Cohen qui est mort. Puis elle était Shomeret Yavam 6 mois avec le frère de son fiancé Cohen qui est mort. Donc elle a fait 12 mois, ou bien 6 mois, donc c'est 6 mois, 6 mois. Ou bien Bifnabal, ou bien pardon, je relis. Asta Shishachodashim Bifnabal, Veshishachodashim Bifnayavam, c'est le cas que j'ai décrit. Vafilu Kulan Bifnabal, Chaser Yom Echad, ou même les 12 mois moins un jour en présence du mari. Le mari meurt au dernier jour. Il n'y a qu'un jour avec le Yavam. Au Kulan Bifna Yavam, Chasar Yom Echad. Et encore plus, si c'était les 12 mois moins un jour auprès du Yavam et un seul jour auprès du mari. Tout ça sont des situations différentes. Ça veut dire à quel moment est mort le mari, le Harous. Est-ce que c'était au début des 12 mois ou à la fin des 12 mois ou au milieu? Dans toutes ces situations, nous dit la Mishnah, Ena ochelet bateruma. Elle ne pourra pas manger la teruma. Rashi, dans Maseret Ktuvot, il est ramené ici dans le Ran. Il traduit qu'en réalité, c'est lav davka 12 mois moins un jour. C'est même les 12 mois bifne à Baal en présence du mari. Et le mari meurt après 12 mois. Quand même, elle ne mange pas la teruma. Parce qu'on a dit que le Yavam n'est pas Mahil. De quel droit elle va manger? Parce qu'elle est maintenant Shomeret Yavam d'un Kohen? Non, le Yavam n'a pas ce koar d'être Mahil Terouma à la Shomeret Yavam. Et donc, c'est là d'Afka dans ces différents cas où il n'y a pas encore 12 mois en présence du Yavam. Même s'il y avait 12 mois, pardon, il n'y a pas eu 12 mois en présence du mari. Parce que les 12 mois avec le mari, c'est ça qui déclenche le dîne des maisonnotes. Et s'il y a le dîne des maisonnotes, il y a possiblement le dîne de Terouma. Eh bien, en réalité, Rashi nous dit que même s'il y a eu 12 mois en présence du mari, que ça déclenche le dîne des maisonnotes, mais il n'y aura pas le dîne de Terouma. Parce que qui est là maintenant? Elle n'a plus la rousse. Elle n'a que le substitut qui est le Yavam. Le Yavam n'est pas Mahil. Ça, c'est l'approche de Rashi. Et alors, quand on a dit ces différentes situations, c'est surtout par rapport à Maisonot, par rapport à Terouma, même dans le meilleur des cas, qui a eu les 12 mois en présence du Baal, et il y aura Maisonot, mais pas Terouma. Mais tous ces cas, c'est par rapport à Maisonot. On te dit, et tant qu'il n'y a pas eu les 12 mois avec le mari, il n'y aura pas de Maisonot. Ok. Mais d'après Rabbeinu Tam, c'est ramené dans le Ran. Le Yavam ne confère pas le sroud de Achila Terouma à la Shomeret Yavam, mais il n'empêche pas non plus de manger. Si en tant que Almana d'un Kohen, elle a droit à manger la Terouma. Rashi pense pas comme ça, mais Rabbeinu Tam pense comme ça. La Almana veuve du Kohen, elle était fiancée à un Kohen. Alors maintenant, la Almana, la Arusa ne mange pas. La Arusa ne mange pas. Au bout de 12 mois, elle a Maisonot et au-dessus, elle mange la Terouma. Si elle a eu ses 12 mois en présence du mari, il y a tout qui tombe. Elle reçoit Maisonot, elle peut manger Terouma et même qu'elle est Shomeret Yavam, elle continuera. Parce que le Yavam n'entrave pas ce droit de Terouma. Il ne lui donne pas un din de Achila Terouma, mais il ne lui entrave pas. Tandis que, ça c'est pour ça que d'après Rabbeinu Tam, la Mishnah se prend à la lettre, qu'on est en train de dire, dans la mesure où il n'y avait pas 12 mois avec le Baal, alors il n'y a pas eu ce din de Maisonot qui enclenche aussi Terouma, elle n'aura pas la Terouma. Mais s'il y avait eu 12 mois, oui, elle aura la Terouma.
Elle s'appelle Almana, même si elle n'est pas mariée, elle est juste Arusa.
Ah dingue, pourquoi pas. Elle est Almana de Mikidushin,
Almana Mikidushin, ok.
Je redis, la Roussa bat Israël, qui est fiancée à un Kohen, elle mange la Terouma, Minatora. Midrabanan, non. Au bout de 12 mois, oui. Comme on a dit. Au bout de 12 mois, elle mange. Il n'y a plus l'exéro des Rabanan, elle mange. Maintenant, si elle est veuve, ben, d'après Rabbi Tom, elle garde ce droit. Même qu'il y a un Yavam, le Yavam n'empêche pas. Elle avait un droit, elle le garde. Pour Rashi, non. Quand elle est Almana, elle n'a pas le droit. Hein. Et le Yavam ne lui donne pas ce droit. Hein. Et donc, il est hors de question qu'elle prétende à la Terouma. Voilà. Bon, ça, c'est un sujet qui n'est pas notre sujet. Maintenant, on continue la Mishnah. Bedin Shelachareem Amrou. Le Bedin ultérieur. On dit que Enaïcha ou Cholet Biterouma Tchetikanes Lechoupa. D'aucune manière, une fiancée ne mangera la Terouma jusqu'à que elle passe sous la Choupa, c'est-à-dire jusqu'au Nisouin. Et donc, la première partie de la Mishnah s'appellera Mishnah Rishona, puisque Mishnah Rishona a justement présenté qu'une Almane, une Arusa peut manger la Terouma, possiblement. C'est ce qu'on a vu. En réalité, le Ran nous dit que dans la Recha de cette même Mishnah, c'est écrit en toutes lettres que la Arusa peut manger la Terouma si le délai imparti est révolu, 12 mois ou 30 jours selon les cas, 12 mois pour une Betula, 30 jours pour une Almana. Et la boguerette, variable, comme on a dit. Mais au terme du délai, la Mishnah dit en toutes lettres dans la Recha, « Higiazman velonisaou ochlot michelov et ochlot bateruma. » On aurait pu ramener la Recha. Sauf que l'avantage de la Sefa, c'est qu'elle met en évidence Mishnah Rishona, Mishnah Acharona. Et nous, on parle de Rishona et Acharona, c'est pourquoi on préfère la Sefa. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on cherche dans tout ce texte? Là, Rabba, il a présenté d'Itnan une Mishnah sur toutes ses lignes. Et la Mishnah vient de se terminer. Et on a entrevu qu'il y a deux versions, Mishnah Rishona, ça veut dire, à une époque, les Chachamim, ils ont changé la règle. Mishnah Charona, c'est Assur. Mishnah Rishona, c'était Moutar. Maintenant, Rabbi Eliezer de notre Mishnah nous dit, Rabba, il est relié à Mishnah Rishona. Lui aussi, il pense comme Mishnah Rishona. Qu'une Arusa, des fois, elle mange la Terouma. C'est quand arrive le moment où le mari lui doit Maisonot, elle a un din de Nessoua. Même vis-à-vis de Terouma. Ah, elle a un din de Nessoua vis-à-vis de Terouma. Elle peut avoir un din de Nessoua vis-à-vis des Nedarim. Depuis quand un rousse, il fait la fara seul? Ça veut dire lui donner un din de mari de Nessoua? Mais c'est parallèle à ce qu'on voit là-bas, que des fois elle est Arusa, mais elle est comme Nessoua. C'est deux applications qui sont d'une même approche. Que des fois une Arusa, on la considère comme déjà Nessoua pour certains dinim de la Torah. Tantôt c'est Achilat Terouma, tantôt c'est Afarat Nedarim. Et donc Rabba il dit, je vois un lien entre notre Rabbi Eliezer et la Mishnah Rishona de Ktuvot. Parce que si Rabbi Eliezer pensait comme Mishnah Harona de Ktuvot, qu'on ne peut pas lui permettre de manger la Terouma, c'est inenvisageable. Alors c'est qu'on ne lui donne jamais un din de Nessoua. Ou inversement, si la Mishnah Harona, elle pense, si on pensait pas comme Rabbi Eliezer ici, que on pensait comme Rabbanan que jamais un fiancé pourra faire la fara seul, ça veut dire qu'une fiancée n'aura jamais un din comme Nessoua. Alors de quel droit on lui a permis de manger la Terouma, même si c'est assur que des Rabbanan, dit Loran, pour une aroussa de manger la Terouma, mais Chachamim assur chizuk le divrem que shel Torah. Il n'aurait lâché du lest que si ça se trouve dans la Torah quelque part qu'une aroussa l'indigne de Nessoua. Alors dans Terouma aussi, on lâche du lest. On dit voilà, à partir de ce stade, il y a eu le délai qui est écoulé. Elle a droit à Maisonot. Elle est comme sa femme, littéralement. Elle indigne comme Nessoua. Oui, j'ai trouvé ça là-bas, je l'applique ici. Je l'ai trouvé dans Nedarim, je l'applique dans Terouma. Mais il y a une corrélation forcément, comme ça Rabba y ressent. Et c'est ce qui le fait dire que Rabbi Eliezer et Mishnah Harona vont de pair, et Mishnah Rishona vont de pair. Mais avec Mishnah Harona qui dit qu'il n'y a pas de Trouma pour une Aroussa d'aucune manière, ça irait plutôt comme Chachamim de notre Mishnah, que Nabal Nifer, Hachetikanes Lirshuto. D'après Chachamim des deux, Chachamim de notre Mishnah et Mishnah Harona là-bas, ben ça n'existe pas, une Aroussa, elle est Aroussa jusqu'au jour de la Choupa. Il n'y a jamais une situation où on va avoir un din comme Nessoua. Rabbi Eliezer qui dit oui, il y a une situation à l'indigne comme Nessoua. Et ça correspond avec la même situation que Mishnah, Rishona. C'est toujours le délai écoulé. Il devait y avoir le mariage, il n'y a pas eu, il lui doit Maisonot. À partir de là, il est comme Nessoua. À quel égard? Un, il parle de ça, l'autre, il parle de ça. Lui, il parle de Nedarim, lui, il parle de Terouma, mais ça va de pair. C'est le sentiment de Rabba. Viens maintenant à Abaye et dit non. Ça n'a rien à voir, les deux sujets. Ils sont pas, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Amar le Abaye, Abaye dit à son maître, dit le Maloï, peut-être que non, rien à voir. Ad kanokash moinan, Mishnah Rishona et la Lemichal Bateruma de Rabbanan. Peut-être que jusque-là, dans la Mishnah Rishona, si on a toléré qu'une Aroussa, après le délai, que le mari doit lui donner Maisonot, alors ça ouvre aussi un droit de Teruma. Parce que Achilat Terouma, c'est qu'un enjeu des Rabbanan. Minatora, d'emblée, une fiancée d'un Kohen reçoit la Terouma depuis le premier jour des fiançailles. Alors Rabbanan, ils ont interdit, d'accord. Ah, on va lever l'interdit quand le délai sera écoulé, parce que comme il lui donne Maisonot, on craint moins ce qu'on avait à craindre, Simpon, ou bien Shema, elle va partager avec ses frères et sœurs. Et la Gemara donne des raisons pourquoi il y a moins lieu de craindre. Comme je dis, une fois qu'il doit payer de sa poche les maisonnottes, il fait vérifier par ses sœurs, ses proches, est-ce qu'elle n'a pas de môme. Il n'y a plus à craindre Simpon. Ou bien, une fois qu'il lui donne les maisonnottes, elle ne mange plus à la table de ses parents. Il l'a fait inviter pour lui donner tous les jours et donc automatiquement, elle ne va pas partager avec les frères et sœurs. Donc, il n'y a plus l'exérante. Ah, d'accord. L'enjeu étant des rabbanan, on peut entendre qu'à un certain moment, il n'y a plus à craindre. Allez, on lève l'interdit. Mais qu'est-ce à voir avec Nedarim? Avant Nedarim d'Oraïta. Mais Nedarim, c'est une question de d'Oraïta. Est-ce que le mari, il est habilité ou non? La Torah l'a dit après les Nisouin. Depuis quand un rousse seul, il va faire la Afara Nedarim d'Oraïta? Et Malo, j'aurais dit que non. Je pourrais très bien dire que selon Mishnah Rishona de Ktuvot, on ne permet pas au mari de faire la Afara lui seul en tant que Arousse. À aucun moment, même pas après le délai qu'il doit payer les maisonnottes. Ve'at kan, et inversement aussi, je peux désolidariser les deux sujets dans l'autre sens de même. At kan o shamat le Rabbi Eliezer, jusque-là on a entendu Rabbi Eliezer dire et la gabe Nedarim, que à propos de Nedarim, que après le délai, il y a Maisonot, alors c'est comme si elle est Nessoua, il peut lui effacer les vœux. En vertu d'une svara que de Rabbi Pinchas, mishme de Rava, comme Rav Pinchas au nom de Rava, de Amar qui avait dit, kol anoderet, Aldat Bala Inoderet. Toute celle qui fait un vœu, elle le fait Aldat, son mari, en référence à son mari, selon le bon vouloir du mari. Et c'est ce qui fait que là, il peut lui effacer. Dès lors qu'elle mange à sa table, elle se sent dépendante. Comme elle se sent dépendante, elle ne s'accorde pas de faire un vœu sans dépendance au mari. Et c'est pourquoi le mari, il a un veto sur son vœu. Aval teruma filu midrabanan amilo achla. Mais teruma, quand bien même que c'est que des rabanan, peut-être que non. Ça veut dire que ce qu'on dit ici, c'est pas forcément un indice pour là-bas. Rab, il les aurait dit qu'on peut lui accorder à Farat Nedarim, alors qu'il est que à Arous. Parce qu'à partir de ce jour où elle est à la table du mari, elle se sent dépendante du mari, même en matière de Nedarim, elle s'en remet. Elle est nodérée de tous ses Nedarim al dat, son mari. Et donc, automatiquement, le mari, il a son mot à dire, il peut effacer. Tandis que là-bas, pour Teruma, même de Rabbanan, non ? Rabbi Eliezer pensera comme Mishnah Harona. Donc Abaye, il est venu, il a coupé les sujets, il les a désolidarisés, alors que Rabba pensait qu'il y a une corrélation. On lui dit non, il n'y a aucun lien. Maintenant, il faut comprendre déjà ce sujet de Rabbi Pinchas. Est-ce que quand on dit que Rabbi Eliezer, c'est Kede Rabbi Pinchas Amarava, Kede Rav Pinchas Amarava, est-ce que ça veut dire que Rabbanan, opposé à Rabbi Eliezer, ne tienne pas de cette logique ? Dis-leur non. Il ne faut pas entendre ça. Parce qu'ailleurs, on voit que Rabbanan adhère à cette logique. C'est où ailleurs ? Ailleurs, c'est le cas d'une Ktana qui s'est mariée, un mariage des Rabbanan, avec un Kohen. Elle peut manger la terouma. Ah, mais elle n'est pas Kinyan Kaspo, c'est des Kiddushin des Rabbanan. Comment elle mange ? Si elle est mariée, mid Rabbanan, elle mange la terouma. Mais c'est Assur Minatora de manger la terouma. Si tu n'es pas l'épouse d'un Kohen, tu n'es l'épouse du Kohen que mid Rabbanan. Eh bien, la raison, c'est parce que...
Kiddushin, c'est Midrabanan.
Kiddushin d'une Ktana, quand ça passe pas par le père. Par exemple, une Yetoma, elle a 8 ans, 10 ans, elle peut pas recevoir ses Kiddushin. C'est le père. Maintenant, le père est mort, alors son frère ou sa mère peuvent la caser, ils peuvent la marier. Mais c'est que des Rabanan. Pour pas qu'elle soit sans protection, il n'y a plus de père et tout. Alors, les Chachamim ont dit, c'est le mieux qu'elle soit mariée, comme ça elle est protégée. Et automatiquement, ils ont institué un din de Nisuin des Rabbanan. Donc les Kiddushin sont des Rabbanan, et elle peut quand même manger la terouma. Comment, ma pitom ? Pardon, je m'excuse, pas le sujet de terouma. Le mari, il pourra quand même effacer les vœux. Comment et pourquoi ? Parce que, on dira la même idée que Rav Pinchas Amarava. Que quand la noderet, la noderet al dat bala, étant donné qu'elle est passée sous la choupa, elle est mamash nesua à son mari, alors tous les vœux qu'elle fait, ben elle pense en référence au mari. Ce qui donne au mari un coeur de pouvoir effacer les vœux. Et Rabbanan, eux-mêmes, tiennent de Sodin. Forcément, ils tiennent la svara de Rav Pinchas. Alors pourquoi ici ils ne sont pas d'accord ? Alors Loran explique. Là-bas, c'est mieux parce qu'elle est née sous Amamash. Ça peut être un mariage de Rabbanan, mais elle est née sous Amamash. Elle était déjà sous la Choupa, ils vivent ensemble, voilà. Mais ici, qu'elle est que Arusa, sauf qu'il lui donne la maisonnante. C'est pourquoi c'est discutable. Rabbanan dit, c'est pas assez pour créer cette réalité qu'elle est nodérette instinctivement toujours en référence au mari, non ? Mais il lui donne la maisonnante, ça pourrait être quelqu'un aussi qui paye à sa place et tout. C'est pas tellement un élément déclencheur. Pour dire qu'instinctivement, toujours, elle se réfère, elle fait ses nedarim en référence au mari. Donc pour Rabbanan, ici, on ne fait pas passer cette svara, même si elle passe ailleurs. Mais dans le concept, on adhère à cette svara. Très bien. Première mise au point du Ran. Maintenant, qu'est-ce que ça génère ? Cette idée de Rav Pinchas, il y en a qui ont voulu voir ici, de là, un enseignement pour Reuven, qui fait un neder, Alda Shimon. Si Shimon dit, je mets un veto sur ton vœu, c'est joué. Bah oui, comme ici. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le mari, c'est pas le vrai digne de Hafarat Nedarim d'un mari que la Torah a conféré à un mari qui se joue ici. Rabbi Eliezer, c'est un autre inyan. C'est que comme elle fait un éder al dat son mari, ben le mari peut mettre un veto. Et donc ça peut être l'Avdavka, la femme et le mari, ça peut être deux individus étrangers, ça peut marcher aussi. Le Ran dit que c'est une erreur. Une chose pareille, Shigiga Torah A. Comment il faut comprendre ici ? Il dit, c'est le din de la Torah que Rav Pinchas est venu interpréter. Pourquoi la Torah a donné au mari le droit d'effacer, le pouvoir d'effacer les vœux ? Parce qu'une femme a naturellement tendance à faire ses vœux. Aldat, le mari, c'est pourquoi il a son pouvoir de Hafara, selon les dînes régis par la Torah, que dans quelle mesure oui, dans quelle mesure non. Toute la paracha de Hafara Nedarim, du mari, c'est comme ça que ça fonctionne, comme ça il dit. Et c'est pourquoi on retrouve qu'il y a des exigences. Quand ce mari va faire l'Afara, que ce soit conforme aux règles de l'Afara. Il ramène une référence au Dafayin Zayin. Ça confirme cette idée que c'est bien du principe de la Torah qu'il s'agit. On n'est pas en train de dire, parce qu'elle s'en remet au mari, alors il a un veto, mais ce n'est pas le din d'origine. C'est oui le din d'origine de la Torah qu'on est en train de commenter. C'est-à-dire, Raffineras nous a donné le fondement de ce digne. Pourquoi la Torah établit que c'est au mari d'effacer, selon les règles établies? C'est parce que une femme, en général, elle a tendance à s'en remettre à son mari. En général, naturellement, c'est comme ça. Et même si une fois elle dit que non, ben, comme en général c'est comme ça, le digne est fixé comme ça. Très bien. Ça, c'est le digne Torah. Maintenant que c'est ça le digne Torah, hein, alors on comprendra que d'après Rabbi Eliezer, il y a des situations où on estime qu'elle est dans cette situation, oui, naturellement, elle s'en remet à son mari, alors ça donne au mari le din hafara d'une nessoua. Comme si le din hafara de la nessoua n'est pas exclusif à la nessoua, puisqu'on comprend la raison pourquoi la Torah confère au mari, quand elle est nessoua, ce pouvoir. C'est parce qu'elle, naturellement, elle s'en remet à lui, alors cette loi pourrait s'appliquer même à une aroussa dès lors que on arrivait à ce stade et à cette situation où naturellement s'en remet au mari. C'est ça l'approche qu'il faut retenir, nous dit le Ran, dans Rav Pinchas Amar Rava. Si bien que d'après ça, entre deux individus, rien du tout. Rouven il dit, je suis noder aldat, Shimon. Shimon dit, mais je mets mon veto. Ça vaut rien. Mais depuis quand Shimon il a un droit de hafarat sur les nédarim de Rouven? La Torah n'a jamais décrété un truc pareil. Donc ça commence même pas. Ici, le mari, c'est le vrai digne de hafarat en tant que mari. Il joue la carte de Hafara du Baal. Sauf que d'habitude, ça commence à Nisouin, Rabbi Eliezer et Mechadesh, ça peut commencer même avant, dès lors qu'on est dans une situation équivalente à celle de Nisouin. Parce que toute la question, c'est est-ce qu'elle est Noderet al dat Bala ou non? En général, non. Mais il y a des cas où oui. Si le délai est passé, que le mari l'a à sa table, oui. Par contre, dit le Rahan, il y a encore une chance, si on voulait. Reuven, il va dire, je fais mon vœu à condition que Shimon valide. Ça, d'accord. Parce que si Shimon ne valide pas, ça veut dire que Montana, il a annulé le Neder. Ça marche. Ça veut dire que dès le début, il n'y a pas eu de vœu. C'est pas que Shimon, il a un veto et il annule. Il annule rien, Shimon. Je dis, si ça lui plaît, mon vœu est adjugé. Si ça lui plaît pas, alors non. C'est mikoach le tnaï que j'ai émis, que je peux conditionner mon éder, et auquel cas ça ne convenait pas à Shimon, mon éder est nul dès le début. Afara, je rappelle que ce n'est pas les mafréas, c'est que mikanou là-bas, que le mari annule le vœu à partir d'aujourd'hui. Il a cette force. Donc ça veut dire que celle-là, elle a un vœu qui est contraignant. Quand le mari entend, il efface mikanou là-bas. Et ce deal-là, dit le Ran, c'est ça que Rabbi Lazare applique à un fiancé dans cette situation, à l'image d'un marié. C'est ça le chidouche de Rabbi Pinchas. Donc Abaye il dit, ça c'est un din propre dans Nedarim, je veux bien. Mais pour Terouma, pourquoi tu veux lui accorder? Tu dis que la Terouma, même si c'est des Rabbanan, pourquoi tu vas dire que c'est permis maintenant parce qu'il lui donne la nourriture? Peut-être que non, il y a encore à craindre, Simpon, ou bien qu'elle va partager du vin de Terouma avec ses frères. On n'est pas sûr. Faut interdire. C'est donc pas forcément lié les deux sujets, les deux sugyot. C'est la conclusion de Abayé. Voilà. Ça, c'est le sujet. Maintenant, juste, j'avais une difficulté de compréhension par rapport à ce que le Ran, il a été Mechadesh deux choses. D'abord, que ici, faut considérer qu'il s'agit du vrai din de Hafara que Rabbi Elazar veut appliquer au Harous. Même après l'explication de Rabbi Pinchas, il s'agit bien du vrai din de la Torah en tant que mari. Ah, il n'est pas encore mari Nesu'in, quand même. Parce que c'est le même fondement. J'ai un problème d'abord parce que normalement, ce genre d'approche, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est d'Archinan Tamadikra, comme on l'a vu dans Amud Aleph. C'est son approche que quand la Torah dit un din, tu creuses, tu trouves la raison, et selon la raison, tu en fixes les modalités de ce din. Tu modules le din selon ce que tu as compris dans le din. Si nous, les Chachmé Ahora, on sait comprendre un digne de la Torah, que ça repose sur telle approche et telle logique, tu peux à travers ça fixer le pourtour de ce digne de la Torah. C'est comme ça la chita de Rabbi Shimon dans différents sujets du Chass. Or ici, les Chachamim sont pas, en général, on ne tient pas comme Rabbi Shimon. Même si on peut creuser, trouver des raisons. Mais pas à travers une raison, je module le dîne de la Torah. Ça, on ne tient pas. C'est que Rabbi Shimon. Là, on est en train de faire ça, les Chahora. Selon le Ran, c'est ça qui ressort. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Pinchas Amarava ? Il m'a commenté le dîne de la Torah. Pourquoi la Torah, elle a dit qu'après Nisouin, Veimbetisha, Nadara, si après mariage, elle a fait un vœu, le mari efface, lui seul, sans personne d'autre, sans le père. Pourquoi, hein? Eh bien, parce que elle est nodeur et elle date bala. Et donc, du coup, ce din, je peux aussi le transposer sur Arusa, si seulement on est à ce stade où elle est nodeur et elle date bala. C'est-à-dire que je module le din de la Torah. Je dis, c'est plus une question que de Arusa ou Nesua. C'est une question, est-ce qu'elle est nodeur et elle date bala ou non? Et je mets le curseur ailleurs. Dès qu'on a passé le délai où elle est devenue à charge du mari, donc elle est nodeur et elle date bala, j'enclenche le din. C'est-à-dire que je module le dîne de la Torah selon le Tam. J'ai du mal avec ça. C'est s'apparente à Rabbi Shimon, mais nous, on ne tient pas comme Rabbi Shimon. Donc ça, c'est une première chose. À moins que la Gemara prétende que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Shimon. C'est possible. Faut voir. Ça, c'est un point qu'il faudrait clarifier. Mais un autre point qui me dérange encore plus, c'est que le Ran nous a dit que Rabbi Elazar n'est pas contre ce principe. Pardon, Chachamim ne sont pas contre ce principe. Que Chachamim, ils peuvent être d'accord qu'on accorde au mari de faire la farat nedarim à la ktana. Autant le mariage n'est que des rabbanan. Pourquoi? Parce qu'elle est nodeur et al dat bala. Là, je ne comprends pas. Si le din que tu dis, que Rabbi Pinchas il a expliqué, c'est quoi? C'est le din d'origine de Hafarat Nedarim de la Torah, que Rabbi Eliezer il applique déjà à partir d'un certain stade d'Hirusin. Rabbanan pense que non, parce que c'est pas assez déclencheur. Ce fait qu'elle mange à sa table, ça déclenche pas assez cette réalité qu'elle est Nodaret Aldat Bala. Ok. Mais pour l'Aktana, oui, dit Loran. Je comprends pas, mais l'Aktana, même les Kiddushin sont des Rabbanan. Elle n'est pas du tout sa femme, elle n'est pas fiancée ni rien. Elle n'est rien du tout. Alors juste parce que ils ont l'impression d'être mariés ensemble. Sur le plan de Teoraita, c'est comme s'ils étaient mariés, mais ils ne sont pas. C'est qu'une histoire des Rabbanan, tout ça. Au regard de la Torah, il n'y a rien entre eux. Ils sont sous le même toit, ils mangent à la même table, elle est à sa charge, d'accord? Et alors, est-ce que deux individus qui ne sont pas liés par un mariage, on peut penser un instant que l'un va effacer le vœu de l'autre? Comme le Ran a prétendu, Reuven et Shimon, ça ne commence même pas. Et même si Reuven a dit, moi pour ce Neder, je m'en remets à Shimon. Ça ne marche pas, sauf s'il a dit sous forme de Tnaï. Alors pourquoi Ktana, oui, alors que ce n'est pas un mariage du tout, Minatora? Ça, il faut savoir comprendre. Je ne suis pas clair encore sur ça. Faut comprendre, je ne sais pas.
Il n'y a pas un statut du père.
Comment?
Il n'y a pas un statut du père, le bas.